Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Rayed Benbrahim. Rayed, bonjour.
Salut Benoît, merci de me recevoir.
Je t'en prie, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ?
Alors, moi je m'appelle Rayed, je suis développeur issu d'une reconversion que j'ai faite en 2016. Depuis cette année, maintenant, ça va faire un an, j'ai créé le site Practical Programming où j'accompagne les développeurs justement qui font leur reconversion à démarrer leur carrière et arriver jusqu'à un niveau développeur confirmé.
Et justement, l'objet de ce podcast, en tout cas ce qui nous a donné envie d'échanger sur ça, c'était un de tes articles ou un de tes posts, je ne sais plus exactement, où tu disais de manière un peu provocante, arrêtez de vous reconvertir au métier de dev. Est-ce que le métier dev est encore un métier porteur pour toi dans ce que tu vois et avec ta vision du marché ?
Alors, c'est complètement paradoxal parce que dans les médias mainstream, tout ce qu'on entend, c'est que les métiers de développeur sont en pénurie, que le développeur est la nouvelle rockstar et qu'il suffit de se mettre un peu au code pour trouver un emploi. Or, ce que je constate avec les reconvertis notamment, mais c'est valable pour tous les développeurs juniors, c'est qu'en fait, le marché est segmenté et le segment début de carrière, qu'on soit reconverti ou qu'on sorte d'une formation d'ingénieur, est le segment le plus difficile et le plus bouché. Les entreprises n'ont absolument aucun mal à trouver ces profils-là. Il y en a de plus en plus qui arrivent sur le marché et il n'y a clairement pas des postes pour tout le monde. Paradoxalement, dès qu'on arrive sur des postes plus seniors, donc vraiment niveau confirmé, senior et plus, il y a une vraie pénurie. On explique souvent cette pénurie par le fait qu'on est incité pendant longtemps les développeurs à faire du dev les premières années de leur carrière et rapidement passer sur des postes de chef de projet parce que développeur, c'est pas un plan de carrière. Du coup, on a un manque sur l'expertise technique qu'on cherche à combler en recrutant un peu par tous les moyens. Mais la pénurie, elle se trouve principalement de ce côté-là de la balance.
C'est clair que des fois, j'interviewe ce que j'appelle des vieux développeurs, c'est-à-dire plus de 10-15 ans d'expérience vraiment pratique dans le dev. C'est devenu franchement rare, quoi. C'est des profils extrêmement rares. Comme tu dis, on a eu cette maladie pendant longtemps de ne valoriser, surtout en France, que les carrières managériales. J'ai l'impression que c'est en train de changer, ça, non ?
J'ai l'impression aussi. J'ai l'impression que même chez les clients grands comptes, on commence à valoriser cette expertise, mais le changement est lent dans les plans de carrière, dans la façon dont ils vont valoriser leur poste, les augmentations, les promotions, etc. C'est difficile encore de faire valoriser un parcours expertise technique, mais c'est en train de changer, j'ai l'impression.
Donc ce que tu dis, c'est que en fait, le marché est surtout compliqué pour ceux qui arrivent sur le marché, justement. Ceux qui démarquent, que ce soit en formation initiale ou en formation de reconversion. Et moi, j'ai vu vraiment les choses changer, j'ai l'impression, dans ces deux dernières années. Et maintenant, j'ai des copains qui me disent, quand on poste un truc, on a 50 CV, mais c'est le mais que du ultra junior, en fait, que du sorti d'école, que ce soit en accéléré ou en formation initiale. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de saturation de ça. Et tous les recruteurs avec qui je parle me disent, on n'en peut plus, quoi, parce qu'en fait, nous, on veut du 2 ans d'expérience minimum. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de vallée de la mort, 0-2 ans d'expérience, qui est terrible, quoi.
C'est ça, en fait, clairement, vu l'abondance du nombre de formations qui te permettent d'être développeur, parfois en 2 mois, parfois un peu plus longtemps, mais il y a un nombre de formations qui sont créées qui est assez monumental. Ces formations sont financées pour la plupart des cas par des fonds publics, donc soit Pôle emploi, soit un congé individuel à la formation, bref, plusieurs leviers de financement donc, qui permettent à beaucoup de monde d'arriver dans ces organismes. Et on a fait une estimation avec notamment Will of Dev et d'autres personnes de la communauté de développeurs qui auraient entre 30 et 50 000 nouveaux développeurs qui débarquent sur le marché par an. Ce qui est gigantesque par rapport au nombre de postes à pourvoir les niveaux d'entrée de carrière.
Est-ce que tu sens un impact de la crise économique pour l'instant ou pas trop sur notre métier ? Parce que je me dis, inexorablement, il y a des secteurs qui vont être... qui sont détruits par la crise. Je pense au tourisme, je pense à l'hôtellerie, je pense à tout ce qui va être événementiel, tous ces trucs-là. Il y a forcément des développeurs qui sont dans ces secteurs-là, même s'il n'y en a peut-être pas beaucoup, quoique j'imagine que dans le tourisme, il doit y en avoir pas mal. Est-ce que tu vois, toi, une espèce de mouvement de balancier ou qui viendrait encore accentuer le truc? Parce que j'imagine que, bah, du coup, c'est ces profils-là qui vont prendre les places disponibles avant, quoi.
Bah, tout à fait, comme tu dis, il y a eu, la crise économique a clairement eu un impact sur le nombre total de postes de dev disponibles. Il y a tout un tas de secteurs que tu as bien cités qui, du coup, ont réduit considérablement leurs investissements dans les postes tech. Du coup, tous les postes restants sont en compétition avec un pool de talents plus conséquent. C'est ce qui fait qu'il y a moins de place pour les développeurs plus juniors. Mais j'ai aussi remarqué que, quel que soit le type d'entreprise, qu'on soit dans une start-up, dans un grand groupe, il y a une sorte de prise de conscience de l'importance de la qualité du code et que c'est aujourd'hui beaucoup plus facile de prendre des profils plus seniors, plus confirmés, qui seront à l'aise avec ces pratiques et qui vont pouvoir s'assurer que ces pratiques sont suivies que prendre des juniors et les former à ça, en fait.
Et du coup, sur quelqu'un qui aurait un profil justement reconverti, qui galérerait un peu à trouver une place en dehors de venir travailler avec toi en coaching, tu lui conseillerais quoi?
Alors effectivement, en dehors de travailler avec moi en coaching, je pense qu'il n'a pas trop d'espoir.
C'est foutu. Ah non, c'est moche.
Non. En fait, souvent, ce que je conseille, c'est de, lorsqu'on sort d'une formation qu'on a commencé à coder, on a un peu cette euphorie le syndrome du tutoriel, je l'appelle. C'est-à-dire qu'on arrive très rapidement à produire quelque chose qui nous paraît fonctionnel. Mais dès qu'on nous lâche la main et qu'on demande d'aller encore un step ou deux plus loin, tout devient très compliqué. Et en fait, on se retrouve avec un profil qui est développeur du framework, où il va aller chercher des composants et les imbriquer les uns par-dessus les autres sans forcément avoir une bonne compréhension, ne serait-ce que du langage. Donc la première étape que je conseille, c'est de se focaliser sur la maîtrise du langage. Quelles sont les différentes méthodes que propose ton langage? Souvent, les développeurs ne savent pas forcément faire la différence entre quelle est la différence entre un map ou un for each en JavaScript. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des développeurs qui ne savaient pas en fait pourquoi est-ce qu'il y avait ces deux options. Donc au-delà de cette notion du langage en lui-même, donc vraiment les fondements du langage, il y a la partie bonne pratique et comment on se fait de l'ingénierie logicielle. Et là, donc, on retrouve un peu les notions que toi, tu parles, à savoir qu'est-ce que c'est que la programmation orientée objet, déjà savoir expliquer comment ça fonctionne, ça prend du temps à comprendre, et c'est normal qu'en quelques semaines de formation accélérée, vous ne sachiez pas le faire. Du coup, prenez le temps de bien voir ses fondements des différents types de différents paradigmes de programmation, de voir comment les design patterns, quelles sont les différentes familles de design patterns, dans quel cas est-ce que vous pouvez en appliquer, etc. Tout ça, ce sont des notions qui vont vous permettre d'élargir un peu à la fois vos compétences techniques tout de suite, la pratique du langage, mais ce que j'appelle aussi la culture tech, de savoir comprendre comment ça se passe et comment ça s'imbrique à travers les différentes parties de l'ingénierie logicielle.
Et concrètement, on fait comment? Enfin, tu vois, la personne, moi, j'ai une pensée pour mon frère qui est dans cette situation, qui est jeune reconverti, qui en ce moment est en train de chercher. Qu'est-ce que tu lui donnerais, toi, comme conseil pour appliquer ça concrètement et le mettre en œuvre concrètement, ce que tu viens de dire?
Alors, tu as la pratique, tu as différents sites qui te permettent de pratiquer ton langage. Je pense notamment à CodeWars, que je trouve très bien fait parce que au niveau de la difficulté des exercices qu'il te propose, il est très progressif et on arrive à avoir plusieurs niveaux de difficulté dans les exercices à réaliser qui te permettent de prendre en main ton langage et les différentes fonctions qu'il propose. Ça, c'est vraiment la toute première étape qui est souvent négligée. Ensuite, une fois que tu commences à avoir cette prise en main, crée-toi un projet, mais un seul projet perso qui va te permettre d'avancer. Pourquoi un seul? C'est parce que souvent, je remarque que les développeurs vont partir dans plein de sens, faire plusieurs projets et se retrouvent à faire souvent la même chose sans aller beaucoup plus loin. Donc, on a un CRUD avec à la limite une gestion d'authentification et puis hop, on a une application. Sauf qu'en fait, souvent, on s'est arrêté trop tôt et c'est en continuant, en persévérant sur un projet, en poussant les fonctionnalités, en s'inventant du trafic, en simulant du trafic et du volume de données, qu'on va pouvoir arriver à des choses intéressantes. Et là, on va pouvoir montrer que si on est développeur back-end, par exemple, qu'on a fait une API CRUD, essayer de faire un service asynchrone où vous utilisez un middleware de messagerie, même si il y a absolument pas le besoin techniquement de le faire à votre volume, mais vous l'aurez essayé. Et c'est là où je trouve intéressant de développer un seul projet.
Ouais, c'est complètement en ligne avec avec ce que je lui dis d'ailleurs et ce que je pense. Avec cette idée, moi, la suggestion que je lui ai faite, c'est d'aller même un cran plus loin avec cette logique d'aller en prod, en fait. Parce que je pense que c'est que en prod que tu découvres certaines choses. Et le fait de mettre en prod, ça t'oblige à vraiment voir toute la chaîne, en fait, de l'écriture, du dev, de la publication, de la prod. Et ça fait apparaître des problématiques et des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Et je trouve que c'est là où tu as un bon échantillon de la vie réelle et que tu trouveras en entreprise, quoi.
D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui se lancent dans un projet de le mettre en prod dès la première ligne de code. En fait, dès que vous avez fini votre Hello World, publiez ça en prod, parce que c'est qu'en mettant en prod régulièrement que vous allez dédramatiser et que le fait de débugger une problématique de prod, vous allez avoir moins de briques à devoir aller détricoter. D'autant plus que c'est ce qu'on applique en entreprise. On essaye de faire de l'intégration continue et du déploiement continu. Donc là, on n'y est pas encore. Mais l'idée de déployer le plus fréquemment possible est une philosophie qui cherche à être appliquée en entreprise. Donc, appliquez-la à vous-même.
C'est clair. Et puis, j'aime bien ton côté dédramatisé. Je pense que c'est important d'en faire un non-événement. J'avais découvert ça... c'était un copain qui nous l'avait mis un peu dans la gueule un jour où on était super fiers de notre mise en prod. Puis nous avait, je sais plus, c'était un dessin ou un truc comme ça qui disait en gros si tu fais la fête quand tu mets en prod, c'est qu'il y a un problème, quoi.
Tout à fait.
On arrive à la fin de la time box. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais et voir ton travail, ils peuvent venir où?
Alors moi, je vous propose d'aller faire un tour sur mon site practicalprogramming.fr et dedans, vous avez la rubrique Académie où je vous propose un e-book de comment réussir sa reconversion ainsi que des templates Notion si jamais vous voulez assurer le suivi de votre projet perso, avoir un template de CV, plein de petits outils qui peuvent vous servir dans votre carrière de dev dans l'Académie de Practical Programming.
Merci Raed. On mettra le lien dans la description. Merci d'être venu.
Merci Benoît.
Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as aimé cet épisode et je t'invite à venir découvrir le programme, le cursus artisan développeur qui se trouve dans la maison des compagnons sur maison.artisandeveloppeur.fr. C'est le cursus dont parle Raed dans lequel je t'apprends à écrire du code durable. Et si tu as envie avant ça de faire ton diagnostic de pratique, tu viens sur Compagnon, là aussi je te mets le lien dans la description, tu pourras faire ton diagnostic de pratique, voir où tu en es et comparer ton niveau à celui de centaines d'autres développeurs. Je te remercie et je te dis à bientôt.